originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre Emmanuel Barré.
Bravo.
On t'a pas entendu bien, Daniel. Dis bonjour.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Et ciao, Jean-Claude Clavier. Et notre invité, Raphaël Mesraïli.
Bonjour.
Raphaël Mesraï, je pense que c'est pas la première fois qu'on fait l'émission ensemble sur Internet, vrai. C'est vous ça.
Ah oui, je suis très très content.
Incroyable, je suis ému moi aussi.
Moi surtout. Moi.
Avec des inédits de Raphaël Mesraï, on va en parler dans quelques instants. Tom Villa, évidemment, vous n'avez pas compris pourquoi nous avions invité Raphaël.
Mais arrêtez, c'est faux, bien sûr que j'ai compris Nagui pourquoi vous l'avez invité, parce que vous êtes en train de lui faire croire que c'est une vraie interview. Alors qu'en fait, c'est juste pour faire plaisir à votre pote, mais disons les choses clairement, cette émission est enregistrée. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2016, Nicolas Sarkozy vient de se lancer dans la campagne à la primaire de droite. Et à mon avis, ça semble bien, pas mal,
ouais,
là, c'est bien parti pour
bon
qu'il gagne.
Ouais.
Alors, notre invité de ce matin, c'est le Clark Kent, Superman du PAF, sauf que lui, quand il se transforme en super-héros, c'est pas pour sauver les gens, mais pour les faire chier. Bonjour ouais. Raphaël Mesraï.
Ah, bonjour.
Son costume de super-héros à lui, c'est pas un slip rouge et une cape, mais une raie sur le côté gominée et un gilet marron Lacoste dégueulasse.
D'ailleurs,
j'ai contacté Lacoste. Ils ont jamais sorti un gilet comme celui-ci.
C'est un faux, tu veux
dire. Pour eux, voilà, il y a deux options. Soit c'est un faux à Marrakech, soit c'est vous qui avez cosu le crocodile, mais en aucun cas dans une boutique officielle. Hein, c'est Nagui et Raphaël Mesraï, c'est la matinée des retrouvailles, un petit peu.
C'est
rappelons à nos auditeurs.
J'ai démarré avec Nagui, quand même.
Bah oui, dans l'émission Caméra Indiscrète, émission dont tout le monde se rappelle absolument pas.
Mais il y avait même pas mon nom.
C'est vrai.
Nagui était écrit en
Nagui dans les lancements, il disait eh bien, on retrouve. Oh, voilà, c'est tout.
Je ne produisais pas cette émission, je ne suis pas fautif, Dieu.
Mais Raphaël, il vous doit tout, Nagui, le succès, l'argent, Brad Pitt. Vous vous rendez compte que sans vous, il n'aurait jamais failli se prendre un pain par Castaldi. Le père, pas le fils. Hein. Je ne sais pas ce qu'aurait été pire d'ailleurs. Rappelons que les interviews avaient lieu il y a 20 ans. Donc Jean-Pierre, il avait 50 ans à l'époque, il était encore plein de bourre. Hein. Vous êtes passé à ça de finir comme Vincent Lambert. Donc, Raphaël, vous êtes là pour la sortie du DVD, la crème de la crème de vos interviews loufoques, 20 ans déjà, c'est les 20 ans de tout en ce moment. Hein. Gad Elmaleh a fêté ses 20 ans de scène, Palma de la Rock 20 ans aussi, puis c'est aussi les 20 ans de fraude fiscale des Balkany.
Non, c'est plus.
Pardon, autant pour moi, ça c'est le souci. Raphaël, pour vos canulars, vous aviez créé le personnage du pire journaliste de France, Hugues Delatte, imprécis, à l'anglais approximatif, hyper agaçant, en gros l'équivalent, c'est un mec de chez BFM TV aujourd'hui, mais vraiment bravo. C'était très fort, c'était le début des caméras cachées, pas cachées. Les stars de l'époque que vous aviez piégées, on retrouve Dave, Claude Sarraute, Nicoletta. Il y a 20 ans, c'était pas des noms qui faisaient marrer. Hein. Non, vous avez même interviewé Gérard Hernandez. Alors pour les plus jeunes, c'est le vieux de scène de ménage. Hernandez, c'est le gros coup de chance parce qu'il a eu 15 années où on l'a moins vu et il est revenu au top. Alors que Sheila...
Oh non,
mais si
Sheila, elle est en tournée en ce moment.
Mais il y a personne qui vient la voir. Enfin non, tu mais elle aurait dû.
Non,
elle aurait pu griller. Que c'était une vanne. Je veux dire, un journaliste qui lui dit qu'il veut encore l'interviewer. À part Drucker, franchement, voilà, on fait tomber la bouteille d'eau. Même la bouteille d'eau est contre Sheila. C'est quand même très très rare. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pour les téléspectateurs, votre personnage de journaliste approximatif, c'est un personnage loufoque. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude des journalistes, c'est un journaliste sur 5.
C'est ce qu'on m'a dit.
Nagui, le nombre de fois où les journalistes lui demandent. Alors, Nagui, vous n'oubliez jamais les paroles ? Sinon, ça va, vous ?
Normalement, ça commence par « C'est vraiment votre prénom ?»
Voilà, très bien. Bref, je ne sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez ni la mode, ni les journalistes, ni Jean-Pierre Castaldi au calme, le DVD de Raphaël Mesraï est fait pour vous.
Absolument.
Merci, Tom.
Merci, Tom.
France Inter, Nagui. La bande originale.
Oui, donc c'est 20 ans dans deux coffrets, un coffret avec deux DVD, sorti là en décembre, 20 ans de journalisme de Hugues Delatte. Alors déjà, d'où vient le nom ?
Parce que... Je peux le dire vraiment ?
Ah bah oui. Il existe ?
Non, c'était des conneries. Non mais tout est parti de conneries absolues, genre je voulais même pas faire ça plus que ça. La première interview que j'ai faite, c'était Brigitte Lay, et j'avais des caméras, mais j'avais pas de cassette.
Vous êtes piégé vous-même.
Oui, non, mais c'était pour rire. Je dis tiens, interviewons quelqu'un pour rien. Donc, puis après, j'y tiens, c'est mettons des cassettes. Et donc, on est parti là-dessus. Et donc, Delatte.
Ouais, on n'a toujours pas la réponse. Voilà. Pourquoi Delatte ? Vas-y, il faut assumer.
Non, c'était un diminutif de, je le dis, de la teub.
Ah, de la teub.
Donc on a je voulais le laisser.
T'as raison, j'allais pas le dire.
Fallait pas le dire. Non mais c'était une connerie de on sortait, on était à 3-4 heures du matin, on a sorti ça au hasard, dit tu vas t'appeler comme ça. J'ai dit pourquoi pas, puis au final non pas du tout. Le jour où le secrétaire du PC que j'avais appelé C'était Krasuki, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'avais dit voilà, j'aimerais vous interviewer. Et quand j'ai entendu Krasuki sur mon répondeur qui disait oui bonjour, je cherche à joindre Monsieur Dolatov, je me dis non, c'est pas possible, ça marchera jamais. Donc j'ai réduit à Dolat et c'est beaucoup plus élégant.
D'accord. Donc on n'insistons pas sur cette question. Bah non, tu as raison. Hein? Deux DVD avec des alors certains pièges, certaines caméras qui ne sont pas cachées. Donc on a le sentiment de les avoir déjà vues, mais pas dans la version longue. Vous proposez la version inédite, même
tout est inédit en tout cas.
L'intégrale de Castaldi, où vraiment Tom a raison, on se dit mais à quel moment il va s'en prendre une.
Oui, c'est, là on laisse tourner les caméras, ça fait quasiment 50 minutes, et là c'est parce qu'on me dit tiens c'est truqué, c'est pas truqué. Non, là on laisse couler, là c'est ça fait 50 minutes de Castaldi, et je le maintiens quand même
à distance.
Et alors celles que je n'avais, alors je sais pas si elles avaient été diffusées ou alors j'avais totalement zappé, c'est-à-dire les stars comme George Clooney, parce que le casting de ce DVD c'est plus qu'un film de Noël. George Clooney, Daryl Hannah, Brad Pitt, Britney Spears, Ben Stiller, Diane Lane, Matt Damon, Jennifer Lopez, Goldie Hawn, Samuel L. Jackson, Suzanne Sarandon, Tom Hanks, Richard Gere, James Brown avec qui vous chantez, vous faites chanter,
ouais.
Ou, hein.
Ouais, je sais.
Non.
Mais moi, mon métier, c'était. Le dit Nicoletta quand même après.
Ah non.
Nicoletta, c'est extraordinaire. Ouais. Nicoletta, elle est pliée en deux du début.
Le rire de Nicoletta, mais James Brown, moi, c'était. Oui, je sais, moi, j'ai toujours voulu faire.
Quand il le fait comme ça, ouais. Attends,
j'ai toujours voulu faire Nagui, moi, à côté. Enfin,
ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai.
Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est. Enfin, le sentiment que j'ai, à part peut-être Nicoletta, c'est que globalement, les ricains, ou alors ils sont très pros, mais ils sont.
Ils ont pas de temps à perdre, c'est ça le truc. Ils sont attachés de presse et tout derrière, ils ont 4 minutes, un chrono, et il faut tracer.
Je suis d'accord, mais ils me paraissent moins vexés, en tout cas, que certains Français.
Ouais, bah s'ils laissent couler, ils disent bon, bah ça, la France, c'est ça, tant pis. Hein,
ça, ouais, je pense que c'est ça. C'est surtout ça. Un journaliste français, une fois sur deux, c'est ça.
Ça les conforte sur ce qu'on leur a dit d'avance.
Oui, c'est ça. Ouais.
Non, je ne sais pas comment sont les journalistes français avec les Américains, mais le calme, l'humour, George Clooney, il est juste
parfait.
Formidable. Ouais. Il a le petit sourire en coin.
Et il je répond n'importe quoi.
La première question, c'est donc vous avez accepté ce rôle, pourquoi ? Et il répond uniquement pour l'argent. J'avais besoin beaucoup d'argent. Et la deuxième question, quand vous lui dites vous êtes préparé depuis longtemps pour Sharon's Eleven, il répond oui, depuis 15 ans, je bois, je fume, je me drogue et je joue dans les casinos. Donc j'étais parfaitement prêt pour le rôle et tout ça avec un petit sourire. Alors là où il est juste un tout petit peu décontenancé, c'est que ne voyant aucune réaction sur le visage de Raphaël Mesrahi, il se dit mais est-ce que ma vanne passe ou pas ? Mais il continue de se faire rire lui en tout cas.
Bah oui, c'est à cause de vous que les Américains nous prennent pour des cons quoi.
J'adorerais, ça serait tellement bien.
Ah oui. C'est l'hommage ultime. Et je trouve, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que le plus efficace de tous, Samuel L. Jackson.
Ouais.
Je ne l'ai pas cru au moment où ça arrivait. Ouais. C'est déjà passé ça, ou c'est moi qui étais vraiment
en retard? C'est passé à la télé deux fois, dans l'émission de Laurent Ruquier. On a tout essayé parce que je l'avais fait pour lui au départ. Et c'est passé deux fois en télé.
Samuel
jamais sorti
Jackson,
en DVD, jamais.
Ouais. Samuel L. Jackson à qui vous dites « Bon, je me lève, je vais aux toilettes, mais continuez à raconter vos vacances. »
Non, c'est ça. Ouais. Je vous pose la question.
Allez-y.
Vous répondez, pendant ce temps-là, je vais aller faire pipi. Et le truc est dingue.
Il répond.
C'est qu'il le fait, mais il le fait avec un tel professionnalisme. Ouais. C'est-à-dire, il se tourne vers la caméra, il raconte ses vacances, il vous laisse aller faire pipi.
Et il y a un plan de la du fauteuil vide.
Pour prouver qu'il parle devant un fauteuil vide, mais quel professionnel.
Et au retour, il dit « C'est dommage, vous avez loupé un truc. C'était sympa, mes vacances. » Non, bon, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas évident de tester des trucs parce qu'on sait pas quelles vont être les réactions des interviewés. Donc, c'était ça qui était un peu stressant parce que j'aime bien les gens au départ. Donc, j'ai pas envie de me les foutre à dos. Donc.
Alors, on s'est permis une chose parce que je sais que.
Permettez-vous tout ce que vous voulez.
Non. On a fait un petit montage. Alors, le problème là-dedans, et c'est ça la force du DVD, c'est qu'il ne faut pas remonter ce que vous avez fait parce que, évidemment, ça, les moments de silence, les moments de gêne, le rythme de l'interview, mais tout ça est extrêmement important.
C'est très compliqué, ça a été très compliqué à faire. Moi, j'en avais tourné au départ en 95, donc ça remonte à très longtemps. Et j'ai mis un an et demi, deux ans à réussir à faire ce montage, c'est-à-dire que faire un résumé en gardant les silences, etc. Et c'est grâce à une personne qui est devenue ma femme après, qui s'appelle Christine Emery, qui m'a dit non, pas du tout, t'es complètement à côté de la plaque, les questions-réponses, on s'en fout, faut vraiment faire un résumé de l'ambiance, garder les silences, tout ça, laisse-moi faire. J'ai donné les cassettes et ça a donné ce que, voilà.
Alors, petit montage uniquement des Américains.
Mr. Garcia, hello, you are an actor, famous, talented, why did you accept it to play in Ocean 11.
Strictly for the money.
T'as vu Clooney, ça.
Avec Clooney.
Je dis Garcia, mais before. Josh Clooney and Andy Garcia are friends, and you?
Yeah, well, I mean, listen, we're all friends after this.
Rapid, ouais.
But and you? Josh Clooney and Andy Garcia are friends.
Uh-huh.
And you?
I think we're having a communication barrier here.
Yes. We know cinema very well in the family because my cousin Dolores Bootball is an actress.
Yes, yes.
Since you know Steven Spielberg, is there something you can do for her?
Yes, of course.
Oh, so thank you.
I'll call Steven as soon as we're done. They'll get me a phone and I'll give him a buzz.
Mr. Garcia, hello. Who did you lie to for the last time?
You.
No, you.
You.
Are you? Ah.
C'est tellement n'importe quoi. Vous avez quand même obtenu que votre cousine Bootball ait un rendez-vous téléphonique avec Steven Spielberg.
Spielberg, bien sûr.
Sacré Dolores.
Je trouve ça formidable. Il y en a qu'une qui le prend moyennement, j'ai envie de dire, c'est Suzanne Sarandon.
C'est vrai.
Elle est un peu tendue.
Elle est tendue, même après, elle est tendue tout le temps. Ouais. Donc je sais pas, peut-être, je plaisais pas.
Non mais ça passait pas. Oui. Celle qui est Britney Spears, je pensais ayant fait l'interview de Britney Spears sur à la télé où moi je l'avais pas très très bien vécu, je me suis dit là bon bah lui c'est pas possible, ça passera pas. Or si, c'est très bien passé. Oui. En fait, ça passe mieux quand on déconne que quand on lui pose des questions musicales.
C'est ça, donc j'ai parlé de roulement à billes, parce que vous conduisiez une voiture, est-ce qu'il y avait des roulements à billes, parce que c'était bien réglé, bien huilé, parce que j'ai un des soucis avec les voitures de mon père au départ, donc quelle heure vous levez, c'est pas trop tôt, 6h du matin, elle dit ah oui, c'est tôt, et c'est tout quoi, aucun intérêt. Quoi.
La seule véritable question qu'on peut se poser, c'est comment autorise-t-il la diffusion de ces images?
Ce sont des press junkets, c'est-à-dire qu'au départ c'est sérieux, et au final dans un truc sérieux, c'est-à-dire que, alors, la vraie galère c'est que de temps en temps j'interviewais des gens, mais il y avait un quota pour la France, genre une ou deux interviews, et moi je m'immisçais là-dedans, donc je foutais en l'air les vraies interviews des vrais autres journalistes. Quoi.
Mais comment vous faisiez pour
je
obtenir...
mentais à tout le monde, quoi. Non c'est ça la difficulté, c'est je racontais beaucoup n'importe quoi.
Et les attachés de presse, personne...
Si, après il y en a qui m'en ont voulu beaucoup. Ouais.
Voilà, et est-ce que il y a une espèce de sécurité qui peut intervenir par moment en disant écoutez maintenant ça suffit, vous levez, vous sortez.
Non parce que je suis jamais méchant. Je parle de ma cousine, enfin des trucs qui n'ont aucun intérêt, quoi. Donc il n'y a pas de méchanceté, j'agresse personne, et c'est ma vraie nature. Je passe mon temps, même dans la vie de tous les jours, à parler de trucs qui n'ont aucun intérêt. Quoi.
Ça c'est vrai.
C'est ça qui m'intéresse. Quoi.
C'est votre force un peu.
C'est ce que je suis dans la vie, quoi.
Mais vous racontiez que vous veniez pour vous citiez des titres de presse, de télé.
Il a annoncé même des chaînes de télé pour Casaldi. Vous dites c'est pour TF1 en prime time.
Ouais, mais ça je l'avais fait au départ. Il y avait rien du tout. Il y avait pas d'email, tout ça. Donc j'étais obligé de sympathiser après avoir eu la personne au téléphone. Avant, sympathiser avec la nana du standard à TF1. Je discutais avec pendant une heure. À la fin, je dis, bah, écoutez, le problème, c'est que j'ai oublié, il faut que j'envoie un fax à un ami.
Ça, c'est
il y a très longtemps, il y a 20 ans.
Une bonne, il y a 20 ans, ça.
Et je dis, est-ce que, c'est des vieux, pour les vieux qui m'écoutent. Et donc, elle m'autorisait à envoyer un fax, et comme sur l'entête, il y a écrit TF1, donc le gars recevait ça, il dit, ah ouais, super, il travaille vraiment à TF1. Pas du tout, j'étais au standard, quoi. Donc j'ai menti à tout le monde.
Génial.
Et même les Français n'ont pas, avec le recul, refusé la diffusion?
Ah non, c'est Castaldi. Et c'est le contraire, justement.
Castaldi, par exemple.
Non, c'est le contraire. Alors, Castaldi, ça, c'est autre chose. Je lui dis juste après, voilà. Donc, c'était, parce que j'ai fait ça pour tellement de gens. À chaque fois, on n'en peut plus, ces interviews. Donc, je repassais chez quelqu'un d'autre. Mais c'était dans un placard pendant 2-3 ans. Ensuite, c'est le groupe Expand qui a récupéré le concept. Ensuite, c'était un autre producteur. Mais j'ai fait quasiment tout le monde. Et Claude Carrère et machin. Tout le monde de Chavannes. Tout le monde est passé par ces interviews au départ. Jusqu'à Patrick Sébastien, qui m'a dit, ok, je fous le paquet, t'es complètement cinglé, voilà 3 millions de francs, vas-y, tourne.
Ah, carrément.
Ouais.
Ah, d'accord, ok.
Et donc, j'ai tourné tout ce que j'ai pu tourner.
Je suis généreux.
Non, mais il est tout. Voilà, c'est.
Non, mais c'est bien, en tout cas, d'être reconnaissant.
Moi, je le suis, parce que
c'est pratique de rencontrer les gens quand ils sont bourrés. Je file du blé, ça fait ce qu'ils font.
Et là, évidemment, il y a toute cette série avec Dave, Nicoletta. Alors, Casaldi, on en parle, ça serait bien d'écouter quand même.
Concentrez-vous, et puis, posez-moi une question.
Ah oui, d'accord. Donc ça s'appelle
c'est des jingles.
Des courts extraits. Ouais. D'accord. André Pousse.
C'est génial.
Ah, André Pousse ne fonctionne pas. Jacques Villeray non plus. Ok, ça ne marche plus. Donc, Dave, Nicoletta, Sim, Gérard Hernandez, Jacques Villeray, Claude Sarraute, Marc Lavoine, Sheila. Il faut dire que Sheila et Marc Lavoine n'ont jamais été diffusés.
Non, jamais, ni diffusés, ni sortis en DVD. Dave non plus. Voilà. Parce qu'à l'époque, ils avaient refusé, tout simplement. Parce qu'ils ne me connaissaient pas et voilà, je tombais à une mauvaise période de leur vie, quoi. Bon, ça arrive, on a des hauts et des bas, et j'étais mal tombé, et ils m'avaient dit non, le diffuse pas, je préfère pas, machin, j'ai jamais diffusé. Et là, j'ai demandé l'autorisation, et ils me l'ont donné, j'allais dire évidemment, mais ils me l'ont donné, parce que, entre temps, on est devenu assez proche, et ils m'ont dit ouais, vraiment avec plaisir, mets-le dedans, c'est génial, tout ça.
Donc. Mets-le dedans, c'est génial. Mets dans le DVD.
On revient à Patrick Sébastien.
Je parlais de DVD.
Et Jacques Villeray, alors?
Eh ben Jacques Villeray. Alors Jacques Villeray, c'était sorti. Et c'est... moi, c'était sorti les 5 premières minutes, parce que 5 premières minutes ou 10 premières minutes, je gommais tout et je lui parle jamais. Et je dis à la fin, je me dis tiens, c'est génial, j'ai ce qu'il faut, voilà, c'est tout. Et on a sorti que ça quand il se passe rien. Voilà, donc je gomme.
Lui qui attend, vous, lui, avec votre cahier d'écolier, en train de gommer les questions que vous préparez.
Et à la fin, je dis bon, ben merci d'être venu. Et voilà, donc je trouvais ça drôle. Mais par contre, après, il y avait quand même trois quarts d'heure d'interview, et c'est quand même Jacques Villeray, et c'était quand même un génie, et absolument, un mec que j'adorais, etc. Ouais. Et quand j'ai revisionné ça cet été, je me suis dit, c'est tellement idiot, mais de laisser ça, voilà, ben je vais remettre Jacques Villeray en intégralité.
Ouais, ça dure combien de temps en général, parce que
entre trois quarts d'heure et une heure.
Et ils sont hyper courageux, les gens,
oui.
Pour pas se lever.
Non, mais ils
sont
patients. Jacques Villeray, on va se faire un plaisir de le réécouter quand même un peu.
Et autrement, Francis Huster, vous le connaissez depuis longtemps?
Bah, je vous dis depuis le compte de promotion, donc ça veut dire depuis 70.
70.
Ça fait bien 25 ans maintenant.
Parce que j'aimerais bien l'interviewer également, donc si vous pouvez le mettre
en... Vous pouvez le joindre au Théâtre des Marigny.
Ouais, je pourrais l'appeler de votre part.
Bien sûr.
Ouais. Il n'y a pas de problème.
Je lui glisserai un mot, je dirais que...
Je pourrais lui dire quoi comme anecdote assez...
Comme anecdote
pour lui, qu'est-ce qui a marqué sa vie? Parce que là, c'est vrai cette anecdote qu'il a toujours un pyjama sur lui? Il disait ça à l'époque.
Je crois qu'il y a une époque, oui.
Parce qu'il n'avait pas de maison, il dormait un peu à droite à gauche.
Mais il dormait un peu chez moi, des fois.
Ah ouais?
Moi, j'allais pas vérifier s'il y avait un pyjama en dessous.
C'était un gros dormeur, non?
La manière de travailler comme ça, Raphaël, je cherche pas le message politique particulier, mais c'est quoi? Alors, quand même un peu, c'est pour se moquer. C'est pour se moquer des journalistes, c'est pour se moquer de la com, des médias, du buzz, on peut faire de.
Mais je crois que je me moque pas.
De rien, on peut faire quelque chose.
Ouais, de rien, mais alors, je me moque pas. J'aime pas tous les bashings, quels qu'ils soient, droite ou gauche, je m'en fous. Je suis pas là-dedans, je dis régulièrement, la personne à laquelle je suis la plus proche, c'est Colombo. Moi, je suis très Colombo dans l'état d'esprit. C'est vraiment, j'aime bien le rien, j'aime bien discuter avec des gens très importants, très riches, très pauvres, très tout. Et tout me fait marrer, je leur parle de détails qui n'ont aucun intérêt, parce que moi, ça m'intéresse. Quand je regarde des films, le premier plan m'intéresse pas. Ce qui m'a intéressé, c'est la télévision radio là, qui est tout au fond. Je dis, tiens, c'est bizarre, ce modèle-là, je le connais pas. Voilà, ça c'est ce que je suis au quotidien.
Alors le problème, c'est qu'on se dit maintenant vous êtes grillé, plus personne ne peut se faire avoir à part Nabila,
voilà.
Que vous avez réussi et qui n'est pas dans le DVD. Alors, ça,
non, mais parce que
si je peux me permettre, c'est ma petite frustration, mais c'est vrai, le DVD existait avant Nabila.
Il y en aura d'autres. Le DVD sorti avant Nabila, j'allais dire. Mais je.
Mais enfin, ça va les deux là.
C'est la famille. Et donc, j'ai préparé les DVD cet été et Nabila. Voilà. Nabila, j'ai fait. Vous pouvez me laisser parler,
non. J'insiste.
Et donc Nabila, c'est Cyril Hanouna qui m'a appelé là il y a un mois pour me dire tiens, son équipe pour que je piège je sais pas qui. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et à un moment il me rappelle, il me dit oui mais Nabila te connaît pas. Je dis ah là ça m'intéresse. Et donc j'ai interviewé Nabila. Et là, c'était irréel, parce que même ce que j'ai pas mis dans l'interview, c'est-à-dire que les prémices, quand elle arrive, je lui dis, mais écoutez, vous voulez un café pour la mettre un peu en confiance? Elle me dit non, parce que je me fais blanchir les dents. Et je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Et elle me regarde sidérée, elle me dit, mais pour les dents, mais il y a que du blanc. J'ai dit, bah, je sais pas, j'y connais rien en dents. Et là, l'interview démarre. Non,
c'est parti, quoi. C'est... Moi, et vous dit... avez retrouvé les sensations d'il y a 20 ans?
Ah, pareil, pareil. À un moment donné, je vous habitais quel étage? Un étage près. Et elle me dit, à un étage près? J'ai dit, bah oui. Ah, mais je peux pas vous le dire. J'ai dit, bon, d'accord, ça ira. Enfin, n'importe quoi. C'était assez.
Ah oui, c'est vraiment n'importe quoi.
Et ouais. Surtout quand elle arrive, la première chose qu'elle dit, elle dit, ah, super, il y a du wifi. Avant de dire bonjour aux gens. J'ai dit, à mon avis, elle, c'est du chef-d'œuvre. Parce qu'on s'en fout complètement qu'il y ait du wifi ou pas. Mais elle, c'était vraiment important. Puis elle était très sympathique, quoi. Donc c'était.
Elle a bien réagi.
C'est... Ah bah Nabila quoi. Non. Bah si à un moment elle s'est fâchée quand je lui dis si votre petite amie était un dessert, serait plutôt un mystère, une religieuse ou un gland. Et elle me dit un quoi? Elle me dit bah un gland c'est le truc qui tombe des arbres, il y a pas de gâteau qui s'appelle un gland. Enfin mais comme elle avait internet et le wifi justement,
elle est allée vérifier sur internet si le gland existait et le gland existait. Voilà,
elle était rassurée.
Et là elle était rassurée alors que le wifi m'a aidé quoi.
C'est donc Raphaël
Nabila qui sait pas ce que c'est qu'un gland, c'est déjà génial.
Raphaël Mezrahi, les inédits mais pas que. Un coffret de 2 DVD sur lesquels vous avez un pur casting de stars françaises comme internationales. Je vous recommande encore une fois le James Brown comme le George Clooney ou le Samuel L. Jackson. C'est pour moi des morceaux d'anthologie. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Raphaël.
Et oui, immédiatement Raphaël, quand je pense à vous, je pense à votre esprit. On vient de comprendre, un peu hors norme, hors du commun. Votre manière sans doute un peu dadaïste, je trouve, de voir le réel. Il y a un de vos... Ouais, ça vous convient?
Ah bah oui, complètement.
Ouais, c'est l'absurde. Ouais.
Il y a une forme, c'est pas que de l'absurde dadaïste en fait, mais
pas que, non, c'est vrai.
Voilà, et dans vos projets en fait, il y en a un qui m'a tout de suite fasciné, c'est un bouquin publié chez Lattès, Les préfaces imaginaires.
Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais fait ça, oui.
Vous
j'avais
avez
fait
imaginé...
la préface de Mein Kampf une époque, ouais.
Voilà. Parce que vous expliquez que vous faisiez la préface de Mein Kampf parce que papy l'a bien connu, hein, Hitler.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Vous imaginez la préface de la Bible. Vous avez imaginé aussi la préface de la série pour enfants Martine.
Ouais, non, c'est pas plus que la Bible. J'ai fait la préface du Nouveau Testament. Donc forcément, c'était l'Ancien.
Vous avez fait la préface du Bottin, de l'Annuaire. Enfin, une idée complètement dingue et géniale.
Livre rouge aussi, ouais.
Ces pastiches, le Capital
oui,
aussi.
Oui, de Marx, évidemment, bien sûr.
C'est des pastiches, c'est des variations qui sont vraiment dignes de l'Oulipo.
C'est état d'esprit, absolument, ouais.
Et ça, c'était absolument génial. Donc, l'Oulipo, c'est l'ouvreur de littérature potentielle, donc dans la veine de Queneau, de Pérec.
Exactement, ouais.
C'est pas vie, mode d'emploi, mais c'est pas très très loin. Et quand je pense à vous, je pense aussi à ça.
Le petit Kevin est attendu à la caisse, s'il vous plaît. Merci.
Je pense à vous, je pense à cette fascination que nous avons en commun, qui n'est pas forcément avouable, pour les supermarchés.
Oui.
Une passion que vous avez aussi en commun avec une grande dame de la littérature, c'est Annie Ernaux. Dans « Regarde les lumières, mon amour », elle fait du supermarché un vrai objet littéraire. Et vous, vous êtes penché aussi sur cet univers des supermarchés. Vous en avez fait même une pièce de théâtre, oui. Monique, et demandé « Caisse 12 ».
Oui.
Alors pourquoi les supermarchés, Raphaël Mezrahi?
Mais parce que ce qui m'est fasciné au départ, déjà c'est l'enfance, tout ça. Moi je suis resté bloqué à l'époque. Je garde toutes mes voitures que j'avais... Enfin, je garde tout, je suis bloqué. Je suis pas collectionneur, mais je suis un nostalgique définitivement. Et quand je me balade un peu à l'étranger, premier endroit auquel je vais, c'est supermarché. Et je me rends compte que, par exemple, le Carrefour, la disposition est la même, mais c'est pas les mêmes produits. Par exemple, le Carrefour à l'île de la Réunion, il y a des sacs avec 30 kilos de grains. Enfin, ils appellent grains, c'est-à-dire des haricots. Et en France, moins, il y en a beaucoup moins. Et donc je note un peu les différences entre et la culture du pays. On la connaît tout de suite dans le film. Dès que je vais dans un nouveau pays, je vais d'abord au supermarché pour voir un peu pour m'inspirer.
Et vous glanez des idées aussi, des répliques, parce que je crois que Monique a demandé caisse 12.
Ah, mais ça, je l'ai fait.
Entendu,
Oui, parce qu'il me manquait ça. Parce qu'une époque, non, je faisais beaucoup de prises de son. Je me suis baladé, j'ai fait toutes les manifs politiques avec. Je m'étais planqué, j'avais un micro perche et j'ai tout fait. J'ai fait le top 50 des chants politiques avec. mais les vrais chants politiques, j'ai fait la finale du mondial avec le coup de boule de Zidane. Je l'ai en son 24-96, en son vraiment au stade comme personne n'a. Mais c'est hallucinant
en
ce
son. En son 24-96.
Oui, parce que j'aime bien le son. Et c'est pour ça que j'adore cette radio. Parce que vous avez des micro-shops, c'est exceptionnel. C'est la seule radio avec des micro-shops. C'est formidable. Et bah, c'est un son de qualité, c'est la qualité CD pour faire court le son 2496. C'est pas du MP3. Et donc, le MP3, c'est, enfin vraiment, c'est, faut arrêter avec ça.
Et trop compressé.
Trop compressé.
Donc ouais. vous n'aimez pas le digital, vous préférez le vinyle et
le digital quand c'est quand les prises de son sont bonnes. Ouais. Mais autrement, le vinyle, oui, bien sûr, le vinyle, j'adore.
Les documents, je ne sais pas si un jour on verra un DVD sortir des castings.
Ah oui, j'ai fait ça aussi.
De Raphaël Mesrahi, mais tous les castings de toutes les émissions sexy des années 90, c'est Raphaël qui les faisait. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, je vois la tête de Pierre-Emmanuel Barré. C'est-à-dire que toutes les jeunes filles, pardon, mais prêtes à tout à l'époque pour passer à la télévision et qui se déshabillaient devant les caméras, ouais, vous les avez castées. Toutes.
Oui, toutes.
C'était. Et parce... c'est votre femme qui a fait le montage du coup aussi ou pas?
Eh ben, elle c'était la productrice. Je l'ai rencontrée à ce moment-là.
Non, mais il a des kilomètres. Il a des kilomètres. C'est incroyable. Et
de casting de rush. Ah, ouais. Et je garde tout. C'est vrai que je garde tout.
Est-ce qu'il y a parmi elles des filles connues? Maintenant,
oui, on a quelques-unes. Oui. Non, je vais pas tout dire. Non, mais
non, pas tout. Mais...
Non, parce que j'étais un passionné. C'était marrant de faire tout ça. Et j'ai gardé toutes
pouvez,
les.
Si vous pouvez rendre à Daniel Morin les images de sa femme, parce qu'il est très tendu là, vu la tête en fait.
Fait une soirée diapo, donc j'aime.
J'ai gardé tous les lecteurs. Ça va du HI8, DV, enfin voilà, que j'entretiens au fur et à mesure, parce qu'après, on en a, les lecteurs de cassettes disparaissent, et donc je les garde pour pouvoir conserver les bandes, quoi.
En attendant, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur.
Bravo. Ah oui. Salut Nagui. Attendez, calmez-vous. J'ai une blague. Qu'est-ce qui descend du ciel pour offrir un Noël plein de chaleur et de lumière aux enfants du Moyen-Orient? Les missiles de l'armée française. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, nous allons parler de rien, hein, parce que ça m'emmerde. Je n'ai même pas fait de jingle, j'en ai plus rien à foutre. Mais ne vous méprenez pas, hein, je suis en pleine forme. C'est vraiment super de venir bosser pendant les vacances de Noël. J'adore travailler quand les gens sont en vacances, c'est ma passion. À la dernière fois que j'étais aussi content, c'est la semaine où j'ai perdu en même temps ma virginité et mon grand-père qui est allé en prison. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce papier, je me casse parce que moi, je suis en vacances dans 2 minutes, alors que vous, demain, vous serez encore assis là à dire à je ne sais pas qui, gna, j'ai adoré votre film, gna, la pièce était super, gna, bravo pour votre livre. Parfois, je me demande si on n'attirerait pas plus d'auditeurs si on suçait directement l'invité. Hein? Allez Raphaël, déshabillez-vous, Daniel enlève ton dentier, on lance un nouveau concept d'émission promo, ça va s'appeler Sans les mains, Nagui tu peux rentrer chez toi, c'est Morandini qui reprend le créneau. Hein, les premiers invités c'est les Kids United. Hein? Moi de toute façon je me casse, dans une heure je serai déjà loin, j'ai pris mon sac à dos, je l'ai rempli avec du lubrifiant, du GHB, du Viagra, je pars aux Philippines, je rentre pas avant d'avoir chopé une maladie inconnue des médecins occidentaux. Hein, mais rassurez-vous, je reviens bosser dès que mon pénis se détache du pubis. Hein? Non vraiment. Je suis content de partir un peu, hein, j'ai besoin de souffler. Regardez-moi, je transpire, je dis de la merde, je me respecte plus. Quand je suis arrivé à la maison de la radio, le vigile m'a dit bonjour, monsieur Macron, quoi. Mais je suis comme ça. Hein, je suis comme ça quand les vacances approchent, je deviens instable. Là, je suis déjà à moitié torché au vin chaud. Je me sens complètement rebelle. Dans l'ascenseur, j'ai écrit Vive Europe 1 avec un crayon à papier. Et j'ai volé une roue sur le fauteuil de Mathieu Gallet. Je vous dis, je suis en train de switcher, il était temps de faire une pause. Alors, je sais. Je sais que je vais beaucoup vous manquer et que mon absence va laisser un grand vide dans le cœur des auditeurs et dans la bouche de Leïla. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, moi aussi, j'ai besoin de repos. Je me sens comme une prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. Et vu l'année politique qu'on vient de passer, j'ai mal au cul comme un client de prostituée brésilienne après la Coupe du Monde. L'actualité m'épuise psychologiquement. C'est toujours la même merde. La gauche est toujours de droite, la droite est toujours d'extrême droite, l'extrême droite est toujours à 30% à cause de la gauche de droite et de la droite d'extrême droite. Les banques continuent à organiser l'évasion fiscale des riches grâce aux frais bancaires des pauvres. Les lobbyistes sont plus souvent à l'Assemblée nationale que les députés. Les consommateurs sont toujours des cons. Ils vont chez Zara et H&M acheter à leurs enfants des habits fabriqués par d'autres enfants. Ils bouffent de la merde, ils boivent de la merde, ils regardent de la merde, ils croient que Jean-Pierre Pernaut est journaliste, que Manuel Valls est socialiste et qu'on fait nos émissions en direct. Hein. Non. 2016, c'était une année dégueulasse. Franchement, si l'année 2016 avait un visage, ce serait le cul de Christine Boutin dans un jean slim. Hein. Alors, est-ce que j'ai de l'espoir pour 2017? Non, ça va être encore pire. Je sens que Christine Boutin va retirer son jean. D'ailleurs, si j'avais le choix, je retournerais directement au Moyen-Âge. Mais pourquoi s'emmerder à fabriquer une machine à remonter le temps quand la SNCF propose des Paris-Béziers à moins de 60 euros? Hein? Non. Non, je suis fatigué, Nagui. Je suis pas sûr de revenir en janvier. Je pense que je vais quitter le métier et reprendre mes études de sage-femme.
Ah, bah voilà, c'est bon, vous aimez donner la vie.
Non, j'aime les vagins dilatés et les femmes qui crient. Allez, bonne fête de fin d'année à tous et surtout restez vous-même, hein, sauf si vous êtes François Fillon, bien sûr. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Bravo.
France Inter, la bande originale.
Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Qu'est-ce qui t'a Rien, pris... j'ai entendu François Fillon, la bande originale.
Mais pas du tout.
T'es
pas...
toujours avec ta femme.
Mais pas ouais, du tout. Ouais.
Tu l'embrasses.
T'embrasses. On n'est plus avec toi.
On
m'en parlait
tout à l'heure.
La bande originale de Raphaël Mesrahi, musique et quelques dates comme ça, histoire de se replonger dans les années 85. C'est Modern Love de Bowie. Vous, en réentendant cette musique, vous voyez où ? En 85.
Dans mon studio, en sous-loc, dans le 15e arrondissement, et j'écoutais soit ça, soit Suffragette City, toujours Bowie, tiré de Ziggy Stardust, et ça me mettait une patate d'enfer avant d'attaquer mes interviews.
Vous étiez représentant de commerce avant ces années 85.
J'ai essayé d'être.
Vous vendiez quoi comme produit sans citer de marque ?
J'ai essayé de vendre des maisons, j'en ai pas vendu. Mais
vous étiez quoi le Stéphane Plaza de l'époque.
Oui, mais
Christophe de Chavannes aussi a fait ça.
Ouais, je faisais du porte-à-porte. Bon, enfin bon, voilà. Et si je vendais des adhésions à la chambre syndicale de l'habillement et de la chaussure de l'Aube. Donc ça s'invente pas.
Avec votre dégaine.
Avec ma dégaine, oui. Et j'ai sympathisé avec plein de gens. Enfin bon, c'était. Enfin voilà.
Vous entrez donc comme stagiaire à TF1. Ouais. Vous travaillez comme documentaliste pour Thierry Ardisson.
Après, oui, parce que mon truc, c'est vraiment c'est plus le son. Vraiment le son. J'ai l'équivalent de 40 000 albums. Mais j'ai beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Donc j'ai récupéré plein de trucs. C'est mon rêve en télévision, avant de faire de la télé, c'était d'organiser une nuit, de faire la nuit des indiffusables, diffuser tout ce qui avait été produit et réalisé pour la télévision mais jamais diffusé. Donc j'ai retrouvé du Salvador Dali inédit chez lui en vacances à Cadaquès, j'ai retrouvé des proches avec le tribunal des flagrants délires, filmé par Raoul Sangla
sur Inter,
qui avait été filmé par Raoul Sangla à l'époque et la bande avait été perdue. Je l'ai retrouvé, je l'ai remasterisé, on l'a diffusé dans le cadre de la 25e heure de Perrin. J'ai retrouvé du Coluche inédit.
Vous avez été aussi journaliste pour Jean-Marc Morandini.
Non, tout ça c'est c'est des conneries.
Ah
c'est,
bon
oui, mais j'avais dit.
J'avais 14 ans.
Non, mais
ça remonte, les gars.
Non, mais parce que après Super Sexy.
Il paraît que vous avez fait que la première, vous avez été viré.
Même pas, j'ai même pas fait la première. Okay. C'était une connerie au départ. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle émission qui se montait qui s'appelait Tout est possible. Et moi, le titre m'a interpellé. J'ai dit, tiens, tout est possible, c'est marrant. Je vais postuler, je vais y aller. Donc on m'a un peu pistonné, comme je faisais du casting là-bas. On m'a présenté les gens. Et donc j'arrive et je leur ai dit n'importe quoi, uniquement pour les réunir, pour leur dire n'importe quoi. Je dis voilà, donc j'ai un concept, donc c'est tout est possible. Donc moi j'ai une idée de sujet. Donc j'ai un copain à moi qui a ouvert un restaurant sans table. Donc le truc c'est génial, c'est qu'on mange des pizzas allongées par terre. C'est drôle, non ? Et donc j'aurais cité 3-4 trucs comme ça et ils m'ont regardé sidéré et cut, c'est tout. J'ai jamais rien fait pour eux. Mais je leur ai proposé de la merde, après ils l'ont fait. Donc
tout seul, c'est
tout
ça.
Seul, c'est ça ouais.
En 95 bars. Par exemple, jamais croisé, jamais d'interview.
Non, une fois, parce que j'étais stagiaire, assistant sur les Victoires de la Musique, l'année où il a rencontré Vanessa Paradis, et je l'ai croisé, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Oui, je vous aime, je vous adore, donc je ne vais pas parler, parce que j'étais okay. Pudique.
La rencontre donc essentielle, c'est celle de Patrick Sébastien.
Après,
qui fait une très bonne imitation de Gainsbourg.
Non mais l'histoire, l'anecdote sur
avec ses lunettes.
Oui, c'est vrai, exactement. Ah ouais, t'es au courant aussi. Non mais l'anecdote. L'anecdote avec Gainsbourg, pourquoi Gainsbourg, le choix de ce disque, ouais. C'est que j'arrive à Paris et je suis fan de Gainsbourg, j'ai plein de trucs, j'ai des sons de Gainsbourg même que la famille n'a pas. Et donc je suis vraiment dingue de Gainsbourg. Et il sort un disque qui s'appelle You're Under Arrest, vous êtes en état d'arrestation. Et donc je me suis dit ce qui serait formidable et qu'on a mon dada, c'est de voler le disque, vous êtes en état d'arrestation, et me faire piquer pour avoir volé le disque. Vous êtes en état
d'arrestation. En état d'arrestation d'avoir
donc,
volé
donc je l'ai volé à la FNAC Montparnasse et je suis fiché pour avoir volé Yonder Rest. Donc pour moi c'était l'élégance suprême.
C'est ça. Après vous avez eu envie de monter sur scène dans, oui. Dans les années 2000, 2004. Oui. Et là c'était ce titre qui vous a marqué.
Bonne édition. Barman, un rond de citron. Barman, je voudrais faire une commission. Et le barman Raphaël, toujours très solennel, sans s'affoler, soigne bien sa clientèle.
Qu'est-ce que Charles Trenet vient faire en 2004 dans votre BO? C'est alors, ça qui est bien en même temps, hein, c'est qu'on peut très bien dire j'écoute telle musique en 2004 sans que ce soit de la musique de 2004.
Bah, Trenet, c'était un génie déjà, c'est tout ce qui.
Ça dépend à quel moment de la journée.
Oui, off. Non, mais c'était un bon gars. Non, mais c'était un talent fou, respect absolu au-delà. Et donc je devais avoir comme. Ça, c'était mon intro quand j'arrivais sur scène, Raphaël. Mais avant, c'était Carla Bruni qui chantait Raphaël. Alors Carla m'avait donné son accord, mais sa maison de disque Naïve m'avait interdit d'utiliser le titre Raphaël. Donc, je lui dis, c'est pas grave, il y a Charles Trenet. Donc voilà, j'ai pris Charles Trenet.
D'accord, très bien. Se retrouver seul en scène, sans cette fois-ci de prise de son particulière.
Ça, c'était très compliqué pour moi. Là, je suis.
C'était inconfortable, vous voulez dire ?
Non, c'est pas ça, c'est que c'était un nouveau métier et qu'il y a plein de gens que j'ai déçus. Mais moi, je fais un reset. Dès que ça marche bien, j'arrête tout et je passe à autre chose. J'aime bien avoir plusieurs vies en une. Donc forcément, j'étais très connu avec mes interviews, tout ça, et j'arrête tout pour. Faire un truc que je connais pas du tout, que je maîtrise pas du tout, c'est-à-dire la scène. Et là, les débuts étaient très 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 compliqués. Mais j'ai donc c'est pour ça que j'avais des sponsors. J'avais Grand Marnier qui offrait des crêpes au Grand Marnier aux spectateurs, comme c'est au cas où ils seraient pas venus pour rien.
Mais il y a toujours eu des sponsors.
Oui, parce que j'ai jamais quasiment aucune aide de télévision et de radio. C'est pas que je suis mal aimé, mais c'est que je suis plus incompris qu'autre chose. Donc c'est impossible de monter des spectacles et sans aide financière. J'ai aucune aide de absolument personne. Je me suis dit si TF1 arrive à avoir de la pub, pourquoi pas moi.
C'est ce qui va se passer notamment le 20 février. De l'année prochaine,
oui.
Au Folies Bergères.
La nuit de la déprime 5.
Voilà, la nuit de la déprime.
Formidable, quoi.
Ouais, c'était super marrant.
Formidable.
Ça, c'est l'idée d'avoir les chansons les plus tristes avec des.
Oui.
Enfin, expliquez-le.
Ah, c'est complètement France Inter, là, pour le coup. Je vous file les bandes quand vous voulez.
C'est chiant. Vous allez voir, c'est chiant, c'est France Inter.
Non. C'est vache. Non, c'est.
Chanter les chansons tristes.
Oui, mais c'est pas ça. J'ai un casting de rêve. J'ai Jean-François Zigel au piano. Il y a Nathalie Dessay. Il y a Renaud Capuçon. J'ai eu Véronique Sanson, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, Thomas Dutronc, Nolwenn. Enfin, toutes les plus grosses stars viennent chanter, Christophe, viennent chanter leurs chansons les plus tristes. Parce que moi, ce qui me faisait marrer, c'est comme je me fais chier très, très souvent dans la vie. Donc pendant, j'écoute de la musique. 4 ou 5 heures par jour. Et un jour, je tombe sur une chanson de Nicolas Pirat qui s'appelait Marie, repart, je sais plus comment ça s'appelait. Marie l'inexorable. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui va chez elle avec ses gosses. Il y a son mari qui fait je sais pas quoi au grenier. Et d'un seul coup, il y a trop d'eau et il se casse la gueule et il est bloqué chez lui et l'eau monte inexorablement. Et la femme explique voilà, chérie, t'en as pas pour longtemps. Et à la fin, le mari meurt, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Donc, je trouvais ça assez rigolo.
c'est la nuit de la déprime avec de nombreuses stars qui viennent sans demander le moindre cachet et les bénéfices de la soirée sont reversés
à des associations et toutes les
il y a eu l'abbé Pierre
il y a deux ans Nolwenn l'intégralité des places de la billetterie va à une association. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc, j'ai des sponsors. J'ai eu Kleenex, évidemment, pour la déprime.
Nutella,
première année. Après, j'ai Nexity.
Et là, pour 2017,
il y avait des pantoufles offertes.
Oui, des pantoufles. Enfin, tous les gens. Si cette année, j'ai la maison de la literie, on met un king size à l'entrée avec un couple qui dort. On est obligé de les enjamber dans le hall des Folies Bergères avec un panneau. Ne déranger sous aucun prétexte. Et il y a des vrais. Tout le monde joue le jeu vraiment. Il y a Christophe Lambert, le comédien, qui sera à l'entrée, qui distribuera des barbes à papa cette année. Mais tout le monde joue le jeu. Nagui, venez faire un truc, mais venez vraiment.
C'est lundi, hein, c'est ça.
Ah, obligatoire pour les artistes. Ouais, c'est un lundi pour les artistes.
Le lundi 20 février de 2017. Nous avons demandé, puisque évidemment, on vous reçoit pour vos interviews, Raphaël Mézrahi, on a demandé à la référence de l'interview, c'est-à-dire à Patrick Cohen. Merci Patrick.
Le vrai Patrick Cohen est là.
Le vrai, ouais. Le vrai, en personne, himself. Bah, dites bonjour Patrick.
Bonjour Nagui.
Non, mais c'est la référence, ça va pas.
On va croire que je suis mytho. Que vous le vouliez ou non, vous êtes l'intervieweur le plus suivi et pour moi quand même le meilleur, que vous le vouliez ou non. J'avais envie de vous demander pour vous, de votre point de vue et pas celui de Raphaël Mézrahi, quelle est la définition d'une bonne interview, si c'est définissable.
Alors d'abord, il n'y en a pas beaucoup.
y compris dans celle que je fais, dans l'interview parfaite, je pense que ça n'existe pas, c'est un mythe quoi. Il faut que les deux interviewés et intervieweurs s'entendent bien. Enfin, c'est pas qu'ils s'entendent bien, il faut pas qu'ils soient d'accord, mais il faut qu'ils soient en phase, qu'ils parlent la même langue. Je pense que c'est la base aussi d'une interview réussie. Et puis, il faut de l'écoute pour l'intervieur. Oui.
Ouais. C'est que l'autre. Oui,
c'est drôle. À ce moment-là, on l'écoute. Mais vous ne finirez pas, Patrick.
J'ai le sentiment, en vous écoutant tous les matins, que la bonne interview, c'est quand vous réussissez à faire dire quelque chose à votre interlocuteur qu'il ne souhaitait pas dire.
Oui, ça n'arrive pas souvent, ça.
Non,
ça n'arrive. Non, oui, ça n'arrive pas souvent. Avec les.
Faut travailler plus tes questions. Quoi.
Avec les. Oui, peut-être. Non. Les hommes politiques ou les femmes politiques qui sont en vedette, qui sont les plus en vue, les plus expérimentés, vous ne leur faites pas dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Vous pouvez éventuellement souligner leurs contradictions, faire ressortir leurs paradoxes, les mettre en porte-à-faux par rapport à des déclarations passées, ou montrer que leur raisonnement ne tient pas. Mais vous ne leur ferez pas dire, enfin sauf exception, mais absolument rarissime. Enfin, je veux dire, ils ont une maîtrise de leur langage, ce qu'on appelle aussi la langue de bois, mais enfin ils ne dévient pas de ce qu'ils ont prévu de vous dire. Donc après nous on essaie de jeter le projecteur là où ça nous semble intéressant, à la fois sur les sujets et sur les aspects de leur programme, de l'actualité, de leur déclaration, mais on ne doit pas essayer de s'illusionner en pensant qu'on leur fait dire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de dire. Voilà. Ça n'existe pas.
Et puis, d'autant plus, moi, ce que je trouve bien dans vos interviews, Patrick Cohen, c'est que vous ne cherchez pas à faire l'exégète de tous les points bien précis, ou chercher à acculer l'invité. Mmh. Parce que c'est aussi ça. Il y a parfois des intervieweurs qui cherchent simplement à montrer qu'ils vont coincer la personne qu'ils interviewent. Et je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour l'auditeur, sauf pour sa petite gloire personnelle, en fait.
Bah, pour l'auditeur, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu construit et constructif, qui soit pas simplement un. Enfin, je conçois pas ça, moi, comme un match de boxe ou comme un combat personnel. Bon,
on embrasse Jean-Jacques Bourdin, bien entendu.
Le sentiment que j'ai aussi, et c'est peut-être ça qui fait la différence entre un bon et un moins bon intervieweur, c'est la culture politique ou la culture générale de celui qui pose des questions. C'est-à-dire qu'on a de temps en temps le sentiment que par les réponses, ceux qui sont en face de vous essayent de eux, ils ont bossé, ils se sont dit tiens, je vais répondre ça ou je vais sortir tel ou tel chiffre. Et là, vous ne savez pas si vous pouvez être pris au dépourvu. Vous ne savez pas si leur réponse est réellement étayée ou pas. Et je trouve que vous avez toujours une réaction en disant non, vous dites ça, c'est faux. Ou alors vous dites ça, vous faites référence à tel incident. Mais c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, vous avez besoin d'avoir en permanence, d'être extrêmement bien réveillé, et d'avoir en permanence la référence, la bonne réaction par rapport à leur réponse.
Réveillé, c'est la moindre des corrections vis-à-vis des auditeurs qui sont là et qui écoutent, qui dorment, ou qui se réveillent, etc. Oui, c'est quand même la première des politesses quand on fait des matinales, c'est de montrer qu'on est, nous, debout, dispo et entraînant pour la journée. Et puis ensuite, oui, il faut avoir un peu de mémoire, mais ça se travaille.
S'il y en a un qui vous pipote, qui vous répond, qui vous dit, écoutez, vous dites, monsieur Cohen, 80% des personnes qui font ça ont déjà fait ça. Et là, il faut bien réagir.
C'est un peu vague, ça, quand même.
J'avais pas d'exemple.
On essaye de leur tenir tête de façon souriante. C'est un équilibre un peu difficile, parce que parfois, on peut être considéré comme étant arrogant, méprisant.
C'est Duflo qui a dit que vous aviez un petit air méprisant.
Oui, alors ça c'était un artifice, parce que évidemment moi je ne disais rien de particulier, mais simplement elle s'est servie de cette remarque pour essayer de
gagner du temps et réfléchir à ce qu'elle allait dire.
Non, de déstabiliser l'intervieweur que j'étais. Mais voilà, mais oui, il faut avoir la mémoire. Moi, la chose minimale que je fais toujours, c'est de relire de regarder les dernières interviews des invités qui sont en face de moi. Donc je
parce
sais
qu'il, parce qu'ils tournent en boucle, parce qu'ils
oui,
disent souvent
parce
la
que
même chose.
Parce que souvent évidemment sauf quand on a quelqu'un de très rare les gens font multiplier les interviews à droite et à gauche dans la presse écrite, en radio et en télévision. Et donc c'est intéressant de savoir où ils peuvent, où ils vont aller quand on leur pose telle ou telle question, quand on aborde tel ou tel sujet, pour avoir un coup d'avance et pour essayer d'abord de pas refaire le même chemin, de pas emprunter les mêmes voies. Et puis.
Et quelle a été pour vous la meilleure interview que vous ayez faite? S'il y en avait une.
Et la plus mauvaise après.
Ah, des mauvaises, il y en a plein.
Ouais, non, mais la meilleure.
Non, des mauvaises, franchement, dit, ouais. on rate souvent ces interviews.
Il n'y a pas des moments de grâce, il n'y a pas des. Là, vous vous dites, c'était quand même bien.
Oui, mais c'est. Ouais, peut-être, mais pas forcément pour des politiques alors.
Très bien.
C'est plutôt dans vos domaines, là, dans les artistes que vous recevez, par exemple.
Le mépris avec lequel dans votre domaine, là, les trucs.
Mais
cours d'école, là.
Mais non, mais j'adore recevoir des artistes aussi. Et,
ça, c'est
et
ça, c'est
les politiques sont formatées, c'est ça.
Et on en reçoit souvent dans la matinale d'Inter et le vendredi plus particulièrement, qui est le moment dévolu au cinéma, à la chanson, etc. Et voilà, il y a des gens pour qui j'ai une très grande admiration, avec qui je sors de l'interview heureux.
Et lorsque certains quittent le micro, quittent le studio en plein milieu de l'interview, est-ce que ça c'est...
C'est pas arrivé très souvent.
C'est un échec ou une réussite? C'est-à-dire de se dire, mes questions ont été tellement pertinentes que elle a préféré fuir.
Bon, ni un échec ni une réussite. Bon, enfin, c'est un délit de fuite pour ce qui est de la personne qui est interviewée. Enfin, sauf si on a été réellement odieux, si on s'est mis à proférer des insultes. Et dans ce cas-là, évidemment, l'interviewé aura eu raison de sortir. Mais sinon, c'est pas être.
Enfin, c'est Marine Le Pen dont je parle.
Marine Le Pen, oui. Alors, l'interview était terminée. Elle est sortie avant la fin de l'émission. Ouais. Exaspérée, effectivement, par
un document que vous aviez passé, une archive.
Que j'avais préparé parce que j'avais vu dans ses interviews récentes qu'elle racontait des cracks sur des propos de Bernard Cazeneuve et de Christiane Taubira, et donc j'avais préparé le machin, et puis elle y est allée toute seule en répétant les mêmes bêtises. Donc j'ai diffusé, j'ai dit voilà, écoutez, elle s'est pas démontée parce que c'est pas quelqu'un qui, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure sur ces politiques rodées à l'interview et qui sont dans des voies très balisées, c'est pas quelqu'un qui se démonte facilement. Mais enfin, quand même, ça l'a beaucoup énervé.
Et vous en avez assez, Patrick, des interviews de politique?
Non, parfois. J'en ai pas assez.
Bah, nous avons, en 2017, là...
Avons... Non, mais parfois, quand vous évoquez le plaisir d'interviewer des artistes, on sent bien que dans l'interaction, il se passe quand même autre chose que quand on est face à un politique.
Mais moi, je veux bien vous remplacer 15 jours, si vous voulez. Ça serait tellement... Non, juste avant les élections, on peut se marrer.
J'en ai pas assez. Non, c'est une question de dosage, tout simplement. Je pense que la vie, la matinale de France Inter qu'on essaie de faire chaque matin, elle essaie de ressembler au champ d'intérêt des gens, des auditeurs qui nous font la gentillesse de nous écouter, et donc leur vie c'est de la politique, et évidemment en période de campagne électorale c'est pas mal de politique, mais c'est aussi de l'économie, de la santé, de la vie quotidienne, et puis de la culture, de l'ouverture sur le monde, de l'international,
sauf que
de l'intérêt pour les autres,
vous
donc
avez
on essaie de varier tout ça.
La véritable bonne question pour un journaliste, c'est lorsque vous connaissez la réponse.
Pas forcément. En tout cas, faut pas non plus. Enfin, il faut là aussi, c'est un équilibre. Il faut pas que les questions soient trop ouvertes. Alors, dites-moi ce qu'il y a dans votre livre. ça, c'est la question super ouverte, très large.
Le mec qui a pas révisé aussi, sur. Hein, c'est le mec qui a pas révisé.
Le mec qui a pas révisé, oui. Dites-moi ça. Ou, enfin, bon. Non, il faut. Non, ça peut être. Il faut. C'est un mix de c'est compliqué. Il y a pas de recette.
Ah, c'était une question. Piège, hein.
Non, c'est un mix de connaissances un peu pointues. Il faut savoir ce que le type a dans le ventre, et puis aussi de questions très très naïves, celles que peuvent se poser l'auditeur ou l'auditrice de l'autre côté de son poste.
Et vous avez un exemple à suivre, quelqu'un qui vous a donné envie lorsque vous étiez jeune étudiant en journalisme de devenir journaliste vous-même?
Karine Le Marchand.
Non, moi j'aimais bien. J'ai été marqué comme beaucoup d'autres par une émission qui s'appelait L'heure de vérité sur Antenne 2, France 2, etc. Voilà.
François-Henri de Verrieux.
Oui, il y avait François-Henri de Verrieux qui animait et puis des intervieweurs qui étaient dans des styles différents qui étaient tous pertinents, intéressants. Alain Duhamel évidemment, mais aussi Albert Duroy, Colombani. C'était des gens qui avaient qui avaient de l'épaisseur, du fond et qui étaient brillants dans leur genre. Ouais.
Patrick Cohen, qui évidemment vous le retrouvez tous les matins sur Inter, et cette année va être particulièrement croustillante parce qu'une année présidentielle, j'imagine que c'est
croustillante et imprévisible. Oui. On n'a jamais eu autant de suspense. Aussi peu de certitudes pour ce qui est de.
Je crois que tu sortais un DVD avec tes meilleures interviews. Pour ça.
Et on le retrouve également tous les soirs dans C'est à vous, aux côtés d'Anne-Sophie Lapix et de notre pote Pierre Lescure. Merci d'être venu. Patrick, dans cette journée bravo. Extrêmement chargée. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Un peu de respect, Daniel Morin. Prenez un peu.
Bravo.
On aime Patrick Cohen.
C'est immense,
bah ouais. On voit bien, en tout cas, qu'il n'y a pas de recette miracle pour réussir une interview. Et c'est là où on voit tout le talent de Patrick Cohen. Et surtout, il faut savoir écouter. C'est
oh,
ça, là.
Le salaud, comme il brille, le soleil d'Alexandrie. Il brille de mille feux et mon épiderme brûle sous les rayons acérés de son éclat génial. Malheureusement, intellectuellement, aujourd'hui, monsieur Guy, votre ciel est couvert. Je sens souffler sur moi la bise de la bêtise. Non, monsieur Guy, l'interview n'est pas un art et l'écoute ne sert à rien. Je l'ai appris de 2 mètres. Ils sont là, devant moi, les petits gredins. Tout d'abord, vous, monsieur Guy, intervieweur, qui répondez tout seul aux questions que vous posez à l'invité. Et ensuite, monsieur Cohen, ici, présent, en qualité de spécialiste, laissez-moi rire, et qui, tous les matins, prend dans son collimateur une pauvre victime et lui parle sans arrêt, sans jamais écouter ce que la pauvre proie, attachée dans son fauteuil en face, lui répond.
Ne réponds pas, Patrick, non.
Et ma foi, vous avez raison, messieurs, écoutez, pourquoi faire? 11 fois sur 10, vous vous croyez plus malin que la personne devant vous. Qu'est-ce que vous iriez vous emmerder à lui demander son avis, alors qu'à l'avance, vous vous êtes fait une idée du pourquoi du propos et n'avez nullement besoin d'attendre ces médiocres balbutiements justificatifs. Allons. Êtes-vous pénalisé pour autant ? Que nenni, monsieur Cohen, vous êtes le poids lourd de cette station, le guide aussi suprême que matinal d'un monde francophone avide de hard news et d'interviews ciselées mettant à mal sans complaisance et sans pitié les victimes expiatoires de vos saillies faussement naïves et délibérément acquises à la cause communiste. Car oui, vous êtes un coco, monsieur Cohen, la tête de gondole bolchevique de la grande armée france-intérienne qui aime à maltraiter les malheureux défenseurs d'une droite penaude qui ose encore à peine venir s'aventurer dans les couloirs ronds d'une radio aux angles pourtant tranchants. Alors, monsieur Guy, votre petit populisme d'opérette qui consiste à dire « l'interview est un art, il faut savoir écouter », c'est du pipeau. Encore une fois, je suis désolé, mais vous avez dit
« n'importe quoi ».
Merci Daniel.
La bande originale, Lady. Sur France Inter.
C'est-à-dire, tous les matins, vous en prenez votre grade, hein, Patrick.
Ah oui, c'est le moment où je parcours le couloir là, vers le studio et puis j'entends Daniel
tous
Morin qui...
Ben oui.
C'est mon hommage à Patrick Cohen.
Ouais, tu parles. Jaloux que tu es de sa beauté et de son talent.
Du coup, je le prends en premier degré. Et je dis que oui, oui, peut-être, je suis le Ceausescu de la matinale, le sphinx, je ne sais
pas. Ah non, le sphinx, c'est moi.
Super ah,
c'est
le sphinx, c'est moi. Pardon,
chacun sphinx, son créneau.
Monsieur Guy, oui.
Raphaël Mézeray est notre invité jusqu'à 12h30. Et justement, pour vous, un petit peu de Zazou.
Un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous azous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis en plus des hurlements. Ouah, des dizzy, des doux. si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage. C'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous. Ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les zazous, il les zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société de payer sa dette. Devant la guillotine, j'agène, il dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou.
C'était Brigitte avec Brigitte Fontaine, pardon, avec M. Il y a des zazous, il y en a un qui est à ce micro, c'est Raphaël Mesrahi, jusqu'à midi et demi, les inédits, mais pas que. Et il y a également donc la nuit de la déprime, la cinquième
année, ouais.
Déjà cinquième nuit, le 20 février 2017, on en parle jusqu'à midi et demi avec lui sur cette bande originale. C'est la bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kadoumoudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morand.
Bravo, bravo Daniel.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bravo, bravo Pierre-Emmanuel.
Piano Richard Ornac. Oui. Et notre invité Raphaël Mesrahi.
Merci.
Raphaël Mesrahi avec les inédits, mais pas que. Ce mais pas que concerne notamment
les Américains, jamais sortis en DVD.
Jamais.
Non.
Là, ça a été compliqué aussi d'obtenir les droits, de demander à Georges Kounet d'accepter que son image...
Ce sont des presse junkets, ils me donnent les cassettes et je pars avec.
Donc, il ne peut pas y avoir de refus. Pas pour l'instant. J'aime bien la tête.
Non, mais voilà.
En tout cas, je n'ai pas encore les avocats qui m'ont contacté. Non, mais c'est vrai, c'est touchy.
Parce qu'ils
pourraient venir vous chercher un peu des ennuis, en considérant que c'est une fausse interview, puisque vous ne représentez pas vraiment le média que vous avez annoncé.
C'était fait il y a 12 ans. Et
il y a prescription. Ouais,
voilà. En France, c'est de 10 ans, donc bon, après...
Ah, tu vois qu'il s'est renseigné juridiquement parlant, quand même.
Non, je connais, je sais où j'habite.
À quel étage, là, un étage près?
Dans le DVD, vous mettez un ordre. Est-ce que cet ordre est important? Est-ce que d'ouvrir sur Georges Clooney, de finir? C'est même pas un ordre alphabétique, c'est rien du tout.
C'est une mauvaise question suivante, Tanguy.
Non, mais pourquoi?
Non, parce que déjà.
Si, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait une progression.
Ah, d'accord, ok. Bah, non, j'ai fait ça un peu à l'instinct. J'ai mis, tiens, Clooney était marrant, ensuite lui, ensuite, ouais, je l'ai fait à l'instinct.
D'accord.
On va faire revenir Patrick Cohen, hein, parce que l'interview est foireuse.
Est-ce qu'il y a eu des personnes que vous auriez aimé avoir dans vos interviews et maintenant c'est trop tard, tout le monde sait qui vous êtes?
Je voulais dire c'est trop tard parce qu'ils sont morts, oui, mais autrement...
Il y avait Hitler, hein.
Il y en a plein, j'aurais adoré Einstein, tout ça, etc., c'est sûr.
Pas le même.
Non. Non, j'adorerais faire le Dalai Lama, donc ça c'est prévu. Et faire Donald Trump, évidemment. J'avais fait Ivana Trump.
C'est pas vrai.
Oui, je l'ai fait. Donc j'aurais dû la mettre. J'en ai d'autres. J'aurais dû la mettre dans le DVD à chaque fois.
Merci.
Pardon, je précise.
Ivana Trump.
Oui, sur son yacht à Cannes, j'avais fait Ivana Trump. C'était assez marrant. Elle m'a plus parlé des petits fours et ce que je voulais. Je voulais du champagne que. Enfin, elle ne s'intéressait pas du tout à ce que je lui demandais. Comme
Donald Trump, à mon avis, ça restait la même chose. C'est-à-dire que votre avenir n'est que dans la star américaine, anglaise, espagnole, italienne. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas qui est Hugues Delatte.
Ouais, ou les jeunes, nouveau, quoi, ouais. La nouvelle génération, quoi, qui à fond dans les smartphones, tout ça, etc. Et qui savent pas une seconde qui je suis.
Ouais, mais avec YouTube, ça devient dangereux quand même.
Non, mais même, parce que YouTube, ça va très vite, ils regardent et puis ils vont très vite. Et on passe. Donc après, même après avoir fait un succès avec Nabila, on a fait quoi de 2,6 millions en 5 jours, 6 jours de vues. Mais je les recroise trois jours après, ils savent pas du tout. Ils ont complètement zappé. Ouais. C'est ça qui est formidable avec la nouvelle. Ou pas, d'ailleurs.
C'est super. Les jeunes sont cons. C'est
formidable,
génial.
Formidable dans quel sens?
Non, mais ça va très vite. Ça va très, très vite. Mais c'est autre chose. C'est une autre. Bah, après, c'est des discours de vieux schnock. Nous, on était comme ça, c'était bien ou pas. Les jeunes sont comme ça, c'est bien ou pas. Je sais pas. En tout cas, l'être humain évolue. Ou... en bien ou mal. En tout cas, il évolue, quoi.
Voici l'humeur de Daniel Morin. Oui.
Bravo!
C'est déjà drôle.
T'as vu ? En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire.
À France Inter.
Une saga quotidienne avec l'ultra viril Patrick Cohen, le névrosé Augustin Trapenard, Vali, la journaliste musicale américaine que personne ne comprend, Laetitia Gaillet, la journaliste mentalement touchée, mais aussi Laurence, la directrice qui prend du crack, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin... en apparence. Aujourd'hui, en l'honneur de la bande originale, toute la grille de France Inter est consacrée aux meilleurs intervieweurs du monde, c'est-à-dire à Patrick Cohen. Laurence, Laurence, la directrice, une ex de Patrick,
oh non,
fait son petit topo. Bon, vous le savez, c'est un secret pour personne. Dans cette radio, mon préféré, c'est Patrick Cohen. Il est cultivé et intelligent, donc incapable de présenter le 11h30. Mais en plus, il est beau, il sent bon et il fait de l'audience. Oui, il fait de l'audience et c'est ça le charme ultime. Je veux aujourd'hui une antenne dédiée à Patrick. Ça le flattera et ça insistera peut-être un peu moins de sa part pour sa prochaine augmentation. Je compte sur vous. Fou de colère et de jalousie, Augustin Trapenard se roule par terre devant le bureau de la direction. Il se croyait vedette et chouchou incontesté. Du coup, il souffre. Et c'est avec vice qu'il se résout à rendre un hommage peu complaisant à Patrick Cohen dans Boomerang, l'émission qui revient toujours, surtout quand tu la jettes fort. Patrick Cohen, merveilleux Patrick, spectre matinal du service public dans les interviews acerbes, ne vexe pas les invités pour cause, il n'invite que ses amis. Patrick, homme chaleureux au regard de Brest, qui règne sans partage sur le 7-9 avec la souplesse et la générosité des grands tyrans de ce monde, ne laissant la parole à ses collaborateurs que quand ils se retirent pour uriner. Patrick, homme d'esprit qui sait se satisfaire de ce que le service public lui donne, il ne se plaint jamais et accepte avec bonne grâce les symboliques 800 000 euros mensuels que l'État lui verse chichement, les 4 millions par mois qu'il reçoit de France 5, l'aidant à joindre les deux bouts. Côté amour, Patrick n'est pas de ceux qui affolent les gazettes avec ses incartades. Non, jamais un scandale et pour cause. Patrick est heureux en amour et reste fidèle à Léa, Rebecca, Hélène et Charline, ses quatre épouses légitimes, qu'il honore plusieurs fois chacune et ce, chaque matin. Bravo, monsieur Cohen. Laetitia Gaillet, notre journaliste qui utilise fréquemment les électrochocs, joue le jeu elle aussi. Emmanuel Macron sommet dans les sondages. Dans une étude parue ce matin, l'ancien ministre de l'économie a aujourd'hui toutes ses chances de figurer au second tour de la présidentielle. Une étude pondérée par Patrick Cohen qui tout à l'heure dans les couloirs disait d'un air convaincu « faut voir ». Et il a sûrement raison. Aux États-Unis, les anti-Trump gagnent du terrain. Hier, un mail a été publié mettant en cause gravement le président américain, des propos sexistes et misogynes, odieux. Quand Patrick Cohen a appris la nouvelle, il s'est écrié « ah ça, quand t'as un grand leader, t'as toujours du monde pour t'emmerder ». En même temps, c'est vrai que le roux, c'est hyper à la mode. 63e mise en examen cette année pour Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret est inquiété cette fois pour raquettes et vol à la tire dans les rues de la ville voisine. Réaction de Patrick Cohen. Ah putain, font chier ces juges, ils peuvent pas foutre la paix à mes potes. En même temps, c'est vrai, ça ressemble à de l'acharnement sur monsieur Balkany. Jamais avoir de son temps ni de son énergie, Patrick Cohen, malgré un emploi du temps de call girl, ne peut s'empêcher de participer lui aussi à la journée d'hommage qui lui est consacrée. Il décide de s'auto-interviewer. Patrick Cohen, bonjour.
Salut.
Tout d'abord, je dois vous dire que je suis fan de votre travail.
Je comprends.
Ça vous vient d'où cette inspiration de tous les jours?
Oh, vous savez, je n'ai aucun mérite, je suis brillant.
Oui, mais quand même. On appelle ça l'état de grâce. Ça vous impressionne d'être écouté par autant de monde? Est-ce que Kim Jong-un est impressionné de savoir que tout un peuple se lève quand il prend la parole?
Non.
Eh bien, moi non plus. Le fait d'être une beauté fracassante ne vous gêne pas dans vos rapports avec tous vos autres collègues moins gâtés par la nature?
Ma foi, je me suis habitué.
Merci Patrick et bravo.
Je sais.
En conclusion, dans cette journée spéciale, la spécialiste musicale Vali devait chanter le générique de L'homme qui tombe à pic en français, mais Patrick a décidé, comme elle ne prononçait pas assez bien son nom, que ça gâcherait la fête. Bref, aujourd'hui encore à France Inter, le travail était remarquable. Tout le monde a joué le jeu et le résultat est impressionnant de qualité. Sauf peut-être pour Vali, mais c'est pas sa faute. Ah là là, une fois encore, ce travail de titan que nulle autre radio ne pourrait produire a été à la hauteur des espérances de Lolo Ladirlo. Et pourtant, mes amis, pourtant, tout ça, c'est juste une journée ordinaire. À faire sa terre. À demain.
Merci Daniel.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
J'ai oublié de préciser tout à l'heure que Patrick Cohen, que tu n'arrêtes pas. Certes, c'est quand même moche d'attendre qu'il soit parti pour dire toutes tes horreurs.
C'est lui qui a choisi de partir. Il savait qu'il allait parler. Je supportais plus. Hein.
Il est diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille, Patrick Cohen. Il a été rédacteur en chef à RFO, puis ensuite à RTL, puis à Europe. Il a bossé enfin, un peu partout. Et vous, avez-vous, Raphaël Mesrahi, suivi des études de journalisme?
Non, non, moi j'ai fait 2 ans de commerce.
Oui, c'est dont on parlait tout à l'heure. Mais après, des études.
Non, journaliste. Non, non, j'ai fait deux histoires de l'art, une licence de cinéma à Sorbonne pour avoir Éric Rohmer comme prof. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir Éric Rohmer comme prof. C'était formidable.
Et vous avez appris quoi de lui?
C'était complètement délirant, ce qui était formidable, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient venir voir, même d'autres cursus qui voulaient venir voir Éric Rohmer. Donc les deux premiers jours, il y avait, je sais pas, 300 personnes. Genre, on pouvait même plus s'asseoir, rien du tout. Et au bout de 3 séances, on était 8. C'est-à-dire que parce qu'on ne comprenait quasiment rien à ce qu'il nous racontait, et c'était ça le génie.
Oh non, ouais, non, c'est trop facile.
Non, mais c'est vrai. Un jour, j'allais à tous ses cours, c'était exceptionnel. Un jour, il prend une télé qu'il met en plein milieu. Il dit, maintenant, on va voir la finale de Roland Garros, mais je sais pas, 76, il y a très longtemps. Et on regarde, et après, maintenant, la question, c'est analyser l'image, ce que vous venez de voir. C'était incompréhensible, c'était génial. Et donc, on a beaucoup, beaucoup discuté. Ensuite, il nous faisait...
Vous m'avez toujours pas dit ce que vous aviez appris, quelle était la leçon, non, mais la c'est philosophie.
Pas, c'est pas Sidi apprendre. Romain. Non, ouais, mais c'est pas apprendre. C'est un ressenti. Et la vie, c'est ça. C'est quand on rencontre des gens, moi, je fonctionne à l'instinct. Je suis très animal. Je rencontre des gens, je sais pas qui je vais rencontrer, mais ce sont des gens qui m'inspirent. Éric Rohmer était éminemment brillant, inspirant, et voilà, j'étais sous le charme de cet homme qui était. Non, mais c'est vrai, c'est pas basique, c'est pas mathématique. Tiens, voilà, faut apprendre ça et tu vas répéter ça. On s'en fout. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est un ressenti, ce sont des échanges. On est des êtres humains, et ça, c'est moi, c'est ma façon d'être au quotidien. En
tout le cas. Ressenti, le charme, l'intelligence, tout est concentré en Leïla Boudadi. La voici avec le monde.
Raphaël Mesrahi, je vous sors de la promo un petit bol d'air sur notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Raphaël.
Les carottes, ça a des poils, les radis, ça a des poils, les betteraves, des longs comme ça, les tomates, ça n'en a pas. Les carottes, ça a des poils,
vous êtes bien sur France Inter.
Ça a démarré là en plus cette chanson.
C'est votre tube, Les Carottes, ça a des poils. Vous l'avez sorti en 99, ouais. Et vous la chantez parfois sur scène encore avec votre ami Guédré.
Ah oui, avec Guédré, on a fait ça. Oui, bah c'est.
Elle est pas relou, elle, un peu.
Guédré.
Elle est très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Et rien n'est simple dans sa vie, mais elle est très drôle.
Alors, c'est même devenu, quelques années plus tard, une émission sur le jardinage, en fait, diffusée sur Discovery Channel. Oui. Une émission que vous présentiez avec votre femme depuis votre jardin à Troyes.
Ouais.
C'est et vrai. En fait, Troyes étant la ville dans l'Aube, parce que du coup, on imagine des choses dans sa vie privée assez particulière.
Vous comprenez pourquoi j'ai rajouté l'Aube à côté, quoi.
Et c'était en fait votre femme qui essayait de vous faire comprendre sa passion pour le jardinage, et vous aviez des guests.
Oui. Ah bon? Oui, c'est vrai que j'avais des guests.
Il y avait Moki qui est venu.
Ah oui,
Brigitte Fontaine.
Évidemment, enfin des amis, quoi. Ouais,
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de...
Je faisais une séquence et j'expliquais les origines des outils de jardin. Donc j'étais avec deux mamies à côté de moi, parce que j'adore les mamies. D'ailleurs, je fais des selfies de mamies. J'en ai à peu près 150. Et dès que j'envoie une,
je dis, tout d'un coup.
Les pauvres,
voilà.
Laissez-les tranquilles, les mamies.
Non, parce que mon spectacle s'appelle Ma grand-mère vous adore.
Et donc, c'est dénudé ou pas?
Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Donc, il y avait les origines des outils de jardin. Donc, aujourd'hui, l'appel. Donc, j'ai alors, à votre avis, donc, Brigitte, l'appel vient d'où? Je sais pas. Donc, voilà, c'est, au début, c'était utilisé dans l'armée, etc. Donc, la semaine prochaine, le râteau. Enfin, etc. Donc, je faisais les outils de jardin. Puis, depuis, la chaîne n'existe plus. C'était Discovery Real Time et ça n'existe plus. Donc, je comprends pas.
Vous avez coulé la chaîne? On poursuit avec un autre son pour vous, Raphaël.
Par rapport aux guerres, parce que les guerres, c'est important quand même d'en parler, c'est pas bien.
C'est quoi,
c'est pas bien.
C'est pas bien.
Oui, mais c'est pas bien.
Je le redis, c'est pas
oui,
bien.
Oui, mais enfin, c'est pas bien. Mais
c'est pas bien la guerre.
J'ai pas fini ma
phrase.
Yannick
Noah le dit tout le temps.
Oui, il y a Patrick Bruel qui le disait.
Patrick Bruel aussi.
Il y avait d'autres encore, j'avais vu, mais c'était sur... même à l'époque d'Anne Sinclair, il y en a plein qui disaient des trucs qui, sur la guerre. Sur la guerre, c'était cool, parce que c'est pas clair. Ouais. Alors, vous êtes plutôt pour, réponse A, contre, autre. Autrement, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est une question très intéressante, je vais y répondre.
C'est une de vos interviews, mais cette fois en sketch, avec Laurent Gérard en François Hollande. Ouais. Et vous avez joué ça au festival de Montreux. Mmh. Face au vrai François Hollande, Raphaël Mesrahi, quelle question vous pourriez lui poser?
What do you think about? Il me répondrait about what? Je dis, in general.
Vous pourriez avoir envie de vous grimer comme ça, de vous...
Non, je me grime pas. Non, je me grime pas, je truque pas, tout est authentique toujours. Ouais. C'est soit ça passe, soit ça passe pas, et c'est pas grave. Mais je préfère non, être authentique, c'est rigolo quoi. Le piège est d'autant plus fort.
Et d'autres politiques, ça serait tentant aussi?
Alors j'ai eu Jean-François Copé que je connais bien, et il y a deux ans, j'y écoute tellement à la rue que ça serait bien que tu inaugures la nuit de la déprime. Et il me dit d'accord, et il l'a fait. Et il est à côté de moi. Je dis alors comment, enfin on peut pas vraiment dire que ça soit ton année.
il va revenir cette année,
il
du coup.
Dit, non, mais je lui dis, tu fais exactement ce que je te dis, je t'en supplie, c'est trop drôle. Et puis il me dit, non. J'ai l'année dernière non plus. L'année d'avant, ça a failli, et puis, non. J'ai autrement, comment tu vois l'avenir? Et puis il me fait, voilà. On est un peu à la bourre, la soirée va démarrer, tu peux la lancer. Il dit, voilà, je déclare ouverte la troisième nuit de la déprime. Et après, je sais pas comment enchaîner, donc j'ai appelé vite Pierre Perret. J'ai dit, je t'en supplie, viens chanter, t'en fais pas mon petit loup. Donc Pierre est venu et il chante juste après Jean-François Copé, t'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, etc. Donc c'était...
On poursuit avec un dernier son, Raphaël.
Bonjour Raphaël, elle est comment ta maîtresse?
Ma maîtresse, elle est... Alors j'en ai plusieurs. Parce que de temps en temps, j'ai des cours du soir. Il y en a une brune, très jolie. Et j'attends qu'elle me rappelle, je laisse des messages et là on a du mal, même des SMS, elle ne me répond pas forcément. L'autre, je la vois de temps en temps. Ouais.
Est-ce que t'as des poux?
J'ai eu une seule fois des poux de poule. Parce que j'ai fait un tournage dans un poulailler et j'ai chopé des poux de poule. Je ne savais pas que ça existait, les poux de poule, j'ai gardé ça 8 jours.
C'est une interview que vous avez donnée à un enfant. Est-ce que finalement, dans les questions des enfants, c'est pas un peu les meilleures questions?
Ouais,
clairement, ouais.
C'est formidable. Mais je sais même pas plus que c'est que ce truc-là, mais c'était bien. Je me souviens des poux de poule, par contre, parce que ça a duré 3 semaines. C'était chiant, ça partait jamais. Parce que j'ai tourné dans un poulailler, c'était pour téléfoot. Je regardais un match de foot dans un poulailler avec des poules pour voir la réaction des poules pendant que Marseille jouait. Et le vide après, c'était pour téléfoot, j'en ai fait une et c'est tout, ils m'ont plus jamais rappelé. Et le vide, mais c'était en direct après. Et le lendemain, une critique dans un journal, ce qu'on a détesté ce week-end, c'était Raphaël Mesrahi dans le poulailler. Et juste en dessous, ce qu'on a adoré ce week-end, c'était Raphaël Mesrahi dans le poulailler. Donc les gens en savaient rien, mais comme moi d'ailleurs, donc c'était parfait.
Et je finis par un petit cadeau, Raphaël Mesrahi. Je vous offre la revue Polka, c'est un trimestriel, là c'est l'hiver 2016.
Si, t'as fini de le lire.
Chaque photo a son histoire. Je l'ai bien feuilleté. Et justement, il y a un très très beau reportage sur les Mennonites, ces chrétiens traditionnalistes qui vivent en Amérique du Sud, un peu une sorte d'Amish, avec un reportage hyper...
Vous êtes pas obligé de le lire, vraiment.
Mais je vous repère un peu les pages, je vous mets des post-it sur les trucs qu'il faut vraiment pas louper. Et comme c'est une très belle revue, et je trouve
c'est
important d'en
parler. Super bien,
c'est un magazine. Merci.
Mais non, c'est une revue, c'est pas pareil. C'est pas juste un magazine, Polka. Et ouais, Polka.
Une jolie femme en couverture, j'adore.
Vous serez en tournée, parce qu'on n'a pas parlé de votre spectacle « Ma grand-mère vous adore ». Le titre s'inspire d'une réflexion faite par une...
Oui,
une jeune
vu
dans
une,
la rue,
une fille de 26 ans l'année dernière, je faisais mes courses, et elle vient me voir, elle me dit « sublime », elle vient me voir, elle me dit « Oh, ma grand-mère vous adore ». Donc là, j'ai pris un coup de vieux, et mon spectacle s'appelle comme ça, et je l'ai joué 3 fois. Déjà, tiens, le 31 décembre, parce que je déteste les fêtes, tout ça, etc. Donc j'ai appelé mon pote des Feux de la Rampe, à côté des Folies Bergères à Paris, je lui dis « Filme-moi la salle, et je joue chez toi ». Et donc je vais jouer le 31 décembre à 21h30 mon spectacle.
Qui est à moitié vidéo, moitié...
Alors moitié vidéo, moitié seul en scène. Et la particularité, c'est que quand je suis en tournée, au lieu d'arriver 2 heures avant, j'arrive 4 heures avant et je tourne un doc dans la ville dans laquelle je suis. On fait le montage et je le diffuse avant d'arriver sur scène tous les jours.
Donc ça, c'est assez rigolo parce là, que les gens se reconnaissent. Et
Je croyais qu'en vidéo, il y avait les programmes que vous aviez proposés aux chaînes de télé. Alors, et qui avaient été refusés.
Aussi. Après, pendant une demi-heure, je diffuse tout ce que j'ai proposé. Enfin, une grosse partie de ce que j'ai proposé à la télé, mais qui a été refusé. Comme après, le spectacle sera diffusé à la télé. Donc,
Et il y a toujours du champagne 100% vegan.
Alors, le champagne 100% vegan, je l'ai fait. Donc, mais il sera prêt dans 18 mois. Là, celui-ci est bio. Mais il y a champagne à volonté pour tous les spectateurs, évidemment.
Des fêtes surprises dans l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vise. Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis quand on part sur un dance floor. Spoiler, peine à jouir, passe-moi pour ne rien dire. Blasé, blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack, knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler!
Gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobinao. Na tiki basu si na nako. Zela tongo ete na pongo to solo lao.
Danse comme on joue les coups. Les briquets font parler la poudre. Dans ce club, tel un thermos. On fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel. Compter 36 chandelles. Tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais. Spoiler.
C'était Balogi avec ce titre Spoiler. Notre invité Raphaël Mesrahi publie les inédits, mais pas que. C'est en DVD, 4 heures de contenu avec des interviews incroyables, improbables de George Clooney, de Samuel L. Jackson ou encore de Brad Pitt, de Ben Stiller. Enfin bon, c'est James Brown encore une fois pour moi, ça m'a...
Parce que c'était mon meilleur souvenir
de James Brown. Il y a un moment dans l'interview de James Brown où il appelle Mrs. Moore, vous lui demandez de chanter et il appelle Mrs. Moore sur le côté, et là je me dis ok, c'est son attaché de presse,
mais moi je crois que
c'est
ça
mort
aussi.
C'est mort, il va se faire jeter, et en fait la Mrs. Moore en question c'est une choriste, ouais. et il l'appelle pour pouvoir faire les voix avec vous, ouais.
Pour qu'on puisse chanter Sex Machine ensemble,
ouais, c'est un grand moment. Voici les excuses, les désolés de Daniel Morin.
Absolument désolé pour Jean-Claude et Marie-Olga de la Teub qui ont très mal pris qu'on se moque de leur patronyme. C'est vrai, c'est pas bien, mais en même temps c'est vrai que c'est un nom à la con. Désolé pour Pierre-Emmanuel Barré qui a découvert que casteur de jeunes filles dénudées en manque de reconnaissance, c'était un métier. Tu pourrais gagner tellement de fric. Désolé pour 80% des personnes qui ont déjà fait ça ou déjà dit ça et qui, à juste titre, se sont senties stigmatisées par Nagui. Et pas qu'à faire ce que vous avez déjà fait, hein, le génie de l'interview. Et désolé, tout récemment, pour Brad Pitt, Nagui qui a bloqué sur Brad, comme s'il y en avait 36 de connus.
J'étais en train de chercher le nom suivant. Enfin, on peut rien faire ici.
Que dalle.
Il a l'écoute, ce garçon.
À bientôt, Raphaël Mesrahi.
Merci bonne...
Alors
donc,
le 31 décembre.
Ah oui, il faut de la rampe avec champagne à volonté pour tous les spectateurs.
C'est juste sur la gauche des Folies Bergères, quand vous êtes en face des Folies Bergères. Et puis, le 20 février, la cinquième nuit de la déprime. Cette
avec
fois-ci,
Jean-François Copé.
Ça sera
non.
Peut-être pas. Ça sera aux Folies Bergères. Demain, c'est Ladislas Chola qui met en scène aussi bien Robert Hirsch que Oliver Twist, ou encore Résiste, la comédie musicale, qui sera notre invité.